Salut Tom Sébastien.
Salut Tom Dominique.
Un nouveau numéro d'Europe Espéranto, c'est le deuxième de l'année. Aujourd'hui, vous avez un nouvel invité.
Alors, l'invité, ce sera Xavier Devidehem, et qui va nous parler des journées Euroscola en espéranto. Alors on va voir ça tout à l'heure, qu'est-ce que c'est Euroscola, et Euroscola en espéranto plus précisément.
Alors qui est cet invité? Présentez-le un peu.
Donc c'est quelqu'un qui habite à Lille, si je ne me trompe pas, ou en tout cas dans le Nord, de la Fédération Espéranto Nord, et justement qui s'occupe pas mal un petit peu des actions entre l'Europe et l'espéranto, notamment.
Alors, quel pays allons-nous voir aujourd'hui?
Alors, comme on a pu le découvrir le mois dernier, chaque mois, un des nouveaux pays candidats de l'Union européenne. Donc, aujourd'hui, ce sera la République tchèque.
La République tchèque, donc après la Lituanie.
Voilà.
Quelques infos pratiques dans le département. Je crois qu'il y a des choses qui vont se dérouler.
Voilà. Alors bon, tout d'abord, comme petite info de base, c'est que les cours dans le département ont repris, hein, là, début octobre, à Saint-Brieuc et ailleurs. Et sinon, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler du mois ou l'année, je sais plus si c'est l'année Émile Masson à Pontivy. Hein, il y a plusieurs événements autour de cette personnalité, Émile Masson à Pontivy. Et comme Émile Masson était quelqu'un qui s'était intéressé à l'espéranto, donc les organisateurs de ces journées Émile Masson ont fait une journée sur Émile Masson et l'espéranto. Donc ce sera le samedi 28 novembre, à Pontivy. Et ce sera entre autres avec Georges Kersaudy, qui sera notre invité du mois prochain, mais qu'on entendra après cette journée Émile Masson. Et donc il y aura entre autres Georges Kersaudy, André Charpillot, qu'on a pu entendre l'an dernier, de l'Académie d'Espéranto. Georges Kersaudy, vous le découvrirez le mois prochain. Et puis peut-être encore, Henri Masson, qui n'est pas du tout de la même famille qu'Émile Masson, mais Henri Masson qui est... un espérantophone important qui a écrit un livre sur l'inventeur de l'espéranto, sur Zamenhof, avec l'ancien rédacteur de l'agence France Presse. Voilà.
Mmh. Avant de retrouver votre invité par téléphone, donc première plage musicale.
Voilà. Alors le groupe qu'on va entendre, je crois que c'est un groupe que notre invité connaît un peu, c'est Kaito. C'est un groupe néerlandais, alors assez européen. Ils chantent en néerlandais, en frison, c'est une des langues locales là-bas, et en espéranto. Et le morceau qu'on va entendre, c'est extrait d'une trilogie qui s'appelait Europo Triologio, donc c'est-à-dire une trilogie sur l'Europe. Et donc c'est la première partie qui s'appelle La Parco, le parc.
La mamulo, 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 stella, la lupola nera, la volpo, la sciacalo, la mundo, la cervala, la mulo, la mamula, la mamulo, la mamula, la mamulo, la mamulo, la mamulo, la mamulo.
Si manifesti subite, super mamulo, chi si presenti schia superulo, la sola estagia cappa blanda e collini.
Musical de ce magazine Europe Esperanto, Sébastien, c'était quoi?
Donc c'était le groupe Kaito, qui veut dire cerf-volant, et c'était le morceau La Parco, le parc.
Alors, c'est l'heure de retrouver votre invité, Sébastien.
Notre invité aujourd'hui est Xavier Devidehem, donc qui s'occupe du site internet de l'association Lille Villeneuve d'Ascq Esperanto, et qui a aussi des responsabilités, si je ne me trompe pas, dans la fédération Esperanto Nord. Donc bonjour Xavier, saluton Xavier.
Ben bonjour Sébastien.
Aujourd'hui on va parler de Euroscola et Euroscola en espéranto. Est-ce que tu peux nous présenter tout d'abord qu'est-ce que c'est Euroscola d'une manière générale?
Alors Euroscola tout d'abord c'est un programme qui en fait est organisé par le Parlement européen. En fait chaque année le Parlement européen organise plusieurs journées Euroscola, à peu près une douzaine par an. Et ces journées consistent en la rencontre, en fait, de quelques centaines de lycéens. Donc ça va de 300 à 600 lycéens qui sont originaires de tous les États membres de l'Union européenne. Mmh. Et en fait, ces rencontres permettent à ces jeunes citoyens, en fait, ces jeunes citoyens européens, de vivre en une journée et en plusieurs langues une session du Parlement européen.
C'est une sorte de mini-parlement pour les jeunes.
Voilà, c'est ça, en fait. C'est pour simuler une journée parlementaire et puis comme ça, ils peuvent voir comment fonctionnent les débats au sein de l'hémicycle, le travail en commission, les votes, etc.
Et alors, qu'est-ce que c'est plus précisément que Euroscola en espéranto et quand est-ce que ça a commencé?
Euroscola en espéranto, c'était un projet qui avait pour but justement la participation d'une délégation internationale d'espéranto. Donc une participation lors de ces journées Euroscola, et cette délégation était constituée de lycéens de toute l'Europe qui utilisaient l'espéranto comme langue commune entre eux. Et c'était des lycéens qui venaient non seulement de l'Union européenne, mais également des États candidats à l'adhésion à l'Union européenne, ce qui était un intérêt majeur de notre délégation, puisqu'en principe, les États candidat ne pouvait pas être représenté à Euroscola.
Donc c'était en quelle année que ça a commencé?
En fait, c'est un Strasbourgeois, Gilbert Stambach, qui en 2000 avait lancé le projet. Et ce projet a eu le soutien de diverses associations d'espéranto, dont Esperanto France. Et Euroscola en espéranto a eu lieu la première fois le 8 mai 2001 au Parlement de Strasbourg. Et d'ailleurs, on peut dire à ce moment-là que l'accueil d'espéranto par une institution européenne était une première à ce moment-là. Ensuite, l'année suivante, après une nouvelle année de démarche, Euroscola en espéranto a eu lieu le 17 mars et le 19 avril à nouveau à Strasbourg.
Donc à chaque fois, il s'agissait de lycéens européens de différents pays qui avaient appris préalablement l'espéranto, c'est ça?
Voilà, c'est ça. C'était en fait, la délégation était constituée de classes de collégiens lycéens qui dans leurs lycées respectifs apprenaient l'espéranto. C'était des groupes d'espéranto qui venaient de l'Europe entière, en fait.
Tu as participé dès la première Euroscola en espéranto, c'est ça?
Donc j'ai été présent aux trois journées Euroscola en espéranto. La première, c'était en tant que participant, puisque je conduisais l'équipe française. C'était alors... l'équipe française était constituée des collégiens de Villeneuve-d'Ascq, en fait.
Et comment as-tu ressenti cette journée Euroscola en espéranto en tant que participant?
Ben pour moi, c'est un grand bonheur, puisque j'aime énormément l'espéranto, et en plus, je suis un passionné de l'Union européenne. Donc, en fait, vivre cette journée où on travaillait donc dans l'hémicycle, dans les commissions, on votait, on était au pupitre pour parler aux divers participants. Tout ça en espéranto et pour l'espéranto, c'était vraiment formidable.
Donc ce jour-là, la langue espéranto avait résonné dans l'hémicycle.
Voilà, dans l'hémicycle, mais également, il faut dire, dans les couloirs, puisque certes, on parle d'espéranto durant nos débats, mais ensuite, bon, les jeunes ont côtoyé les autres Français, les autres Allemands, etc. Et c'était l'occasion de parler ensemble. Et il faut dire aussi que le 8 mai 2001, c'était donc la veille du 9 mai, la journée de l'Europe, et il y avait tout. C'était en fait les portes ouvertes au Parlement européen. Donc il y avait des stands devant le Parlement, il y avait des stands à l'intérieur du Parlement, et un stand d'espéranto s'était tenu à l'occasion. On avait entendu parler de l'espéranto à la fois dans l'hémicycle, entre les jeunes, mais également à l'extérieur, avec les médias, avec les Strasbourgeois, etc.
Donc cette initiative avait eu un impact important.
Voilà. Il y avait également la chaîne régionale de France 3 qui m'avait interviewé avec deux Croates, donc à propos de notre participation à Euroscola. Donc en effet, ça a eu un certain retentissement, on va dire, et on était très contents à ce sujet.
Et pour les années d'après, donc tu es devenu organisateur, c'est ça?
Voilà, donc l'été d'après, j'ai carrément été co-organisateur avec Gilbert Stambar, qui avait lancé le projet.
Et est-ce que ça a changé ton point de vue, de passer de participant, simple participant, à organisateur?
Déjà en 2001, bon, j'étais que simple participant, mais parmi les... J'étais au sein de la petite équipe active, on va dire.
T'étais impliqué déjà.
Donc déjà, je voyais un petit peu, mais c'est vrai qu'en 2001, c'était beaucoup plus stressant, puisqu'il y avait la délégation à constituer, les groupes à rechercher à travers l'Europe. Il y a également les démarches auprès du Parlement européen. Donc en fait, on était surtout deux. Gilbert Stambar, qui était le contact privilégié avec le Parlement, et qui s'occupait des affaires locales, en fait, tout ce qui est logement, etc. Et moi, je m'occupais de la composition de la délégation, du déroulement de la journée, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait préparer, etc. Donc c'est vrai que c'était très stressant, assez lourd, puisque s'occuper de 8 pays, de 8 groupes qui sont de pays différents, tout fait par Internet, en gros. Bon, c'est pas évident, mais c'est vraiment une très très bonne expérience.
Et tu nous disais tout à l'heure que tu étais un passionné de l'Union européenne. Alors, c'est justement quels aspects de l'Union européenne t'intéressent prioritairement?
Ben, ce qui m'intéresse, le fait que différents pays se retrouvent, c'est vraiment un travail, c'est même plus de la coopération au sein de l'Union européenne, c'est vraiment de l'intégration. Le fait que différents États, différentes nations s'intègrent dans un tout tel que l'Union européenne, afin d'être plus représentatif, de jouer un rôle plus important, plus décisif sur la scène internationale. Également le fait que chaque Européen puisse s'ouvrir sur les autres États de l'Union européenne, que l'on puisse facilement aller en Italie ou en Pologne maintenant, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
Et justement, quelle pourrait être, selon toi, l'utilité que l'espéranto pourrait apporter justement à l'Union européenne?
À ce niveau-là, il faut dire que l'élargissement de l'Union européenne, inévitablement, va conduire à l'utilisation de plus en plus de langues dans les institutions européennes. Et ça va poser de plus en plus de problèmes pour garantir que toutes les langues aient les mêmes droits, en fait. Et à ce moment-là, il y a un risque d'une moins bonne représentation des citoyens européens qui auraient une langue moins égale que les autres, en fait. Bon, de plus, une hégémonie, en quelque sorte, d'une langue nationale, quelle qu'elle soit, contredit un principe fondamental de l'Union européenne qui est de n'imposer à personne sa langue maternelle. Et il faut dire aussi que l'espéranto, bon, c'est une langue neutre du point de vue national, culturel et linguistique. C'est une langue accessible à tous et surtout par ses qualités, elle permet et elle facilite en fait l'apprentissage des langues étrangères. Je pense que l'espéranto pourrait jouer un rôle en fait de langue pont entre les diverses langues pour faciliter le travail de traduction et faciliter la communication au sein de l'Union européenne.
Donc l'Union européenne aurait tout à y gagner.
Voilà.
Alors, Duncan Xavier, merci. Kai Gis.
Gis.
Deux mots sur ce groupe.
Alors, c'était le groupe Ahmed Mahlas, qui veut dire Ahmed à faim. Donc c'est un groupe tchèque, hein, vu qu'on va parler de la Tchéquie. Alors je peux donner s'il y a des gens qui ça plaît
la
bien.
La référence.
Leur site internet où il y a quelques musiques qu'on peut écouter. C'est Ahmed, alors A-H-M-E-D, point freemusic, F-R-E-E-M-U-S-I-C, point C-Z. Ahmed.freemusic.cz. Voilà.
Alors le mois dernier, vous êtes intéressé à la Lituanie, donc pays candidat à l'entrée à l'Union européenne, qui va rentrer d'ailleurs, voilà, bien sûr, maintenant ça y est, c'est officiel. La République tchèque aujourd'hui ?
Alors voilà, on descend un peu plus bas. Donc la République tchèque, ou en tchèque, c'est Česká republika, ou Česko. Donc c'est un pays qui se trouve au centre de l'Europe, hein, sous la Pologne, à côté de la Slovaquie. Alors un pays composé de la Bohême, de la Moravie et de la Silésie. Alors justement, qui était devenu Tchécoslovaquie en 1918 et puis qui s'était séparé en 1993.
C'est pas si vieux. Hein.
Voilà. Et puis qui avait surpris tout le monde parce que c'était une séparation qui s'était très bien passée, sans aucun problème. Alors 10 millions d'habitants à peu près. Et à 95% de Tchèques, hein, donc il y a 3,5% de Slovaques, donc une population assez uniforme, une superficie d'environ 80 000 km². Alors c'est une démocratie, hein, comme pour la Lituanie le mois dernier. Le président actuel, si je me trompe pas, c'est Václav Klaus. Alors la religion principale de la Tchéquie, c'est la Tchéquie de religion catholique de façon dominante. La capitale, tout le monde connaît, c'est Prague. D'ailleurs, c'est là où j'ai découvert le groupe qu'on a entendu, hein, sur Radio Prague. Donc Prague avec près de 2 millions d'habitants. Et comme autre ville importante, il y a Brno, České Budějovice.
On arrive dans des noms pas faciles à dire.
Voilà. le drapeau, il est composé avec un triangle bleu et puis une bande rouge et blanche. Voilà. Et la monnaie actuelle, comme c'est pas encore l'euro, là-bas, c'est la couronne tchèque. Alors, du point de vue de la culture, il y a des grands compositeurs dont certains sont très connus, comme Dvorak, hein, Smetana, enfin on en a cité plusieurs. Comme écrivain, il y en a un qui est assez connu, c'est Jan Neruda, du 19e siècle, donc avec son livre « Histoire d'un quartier de Prague ». D'autres comme Kundera, ou un qui est plus actuel, c'est Jaroslav Hašek. J'ai des peintres, on m'a cité aussi des peintres, Moucha, Kupka, des metteurs en scène, Forman, Menzel, enfin bon, une culture très très riche. Alors au niveau de la langue tchèque, elle appartient au groupe occidental des langues slaves, c'est-à-dire avec le slovaque, le polonais et le serbe. C'est des langues qui sont assez proches. Moi, je connais un petit peu le polonais et c'est vrai que j'ai déjà discuté avec des tchèques et c'est vrai que polonais et tchèques peuvent presque se comprendre. C'est un peu comme le français et l'italien. Hein. Mmh. C'est des langues très proches. Alors, c'est une langue qui a pris naissance vers le XIIe siècle. Et c'est la langue slave la plus anciennement attestée, juste après le macédonien. Donc, elle a évolué au XIVe siècle. La langue littéraire, elle a été illustrée par l'écrivain Jan Amos Komenský, ou qui est plus connu sous le nom de Comenius. Donc c'était au XVIIe siècle, et qui était Comenius, qui était un précurseur un petit peu de l'Union européenne, donc avait écrit un livre Porte ouverte sur les langues. Et la République tchèque, oui, a signalé encore à propos des langues, c'est un des rares pays d'Europe où la question des langues minoritaires ne se pose pas, vraisemblablement. Sinon, par rapport à l'Union européenne, comme le mois dernier, pour préparer un petit peu cette émission, j'ai été en contact avec quelqu'un de la SOS d'Espéranto en Tchéquie, donc il répondait un peu à mes questions et donc il m'a dit que à propos de l'Union européenne, une partie importante des Tchèques ont un petit peu la crainte de l'invasion d'un capital étranger avec lequel ils pourront pas faire concurrence, et puis un peu la crainte aussi que Bruxelles prenne des décisions contre leurs intérêts. Mais néanmoins, si le oui est passé, c'est parce qu'ils veulent pas rester une île isolée au milieu de l'Europe unie. Et donc c'est un oui qui l'a emporté, mais bon, vraisemblablement sans très grands enthousiasmes. Hein. Mm-hmm. Celui qui m'a écrit m'avait dit que c'était entre guillemets un mariage de prudence. Et enfin, bah justement, bah, donc celui qui m'a aidé, c'était Miroslav Malovec, qui est le rédacteur de la revue de l'Association tchèque d'espéranto. Donc à propos justement de l'espéranto là-bas, donc il m'a dit qu'il y a environ 1000 membres dans leur association nationale, répartis dans 50 clubs. Donc ils organisent environ une vingtaine de rencontres, congrès par an, donc ce qui est pas mal. Alors les plus actifs de ces des espérantistes là-bas sont les associations des espérantistes catholiques et des espérantistes cheminots. Par contre, ce qu'il m'a dit, les jeunes espérantophones sont plus tellement si actifs, hein. Contrairement peut-être à d'autres pays, mais en tout cas en Tchéquie vraisemblablement non. Et sinon, ce qu'il me disait, alors ça c'était un petit peu sous son impulsion, que le mouvement là-bas, mouvement espérantiste en Tchéquie, essaie de passer à l'internet, mais c'est surtout lui qui essaie de donner cette impulsion avec des dictionnaires sous forme électronique, avec il y a une encyclopédie sur internet en espéranto de libre accès, donc il essaie de s'occuper pas mal de ça, voilà.
Merci Sébastien pour toutes ces précisions. Prochaine émission, quel sera l'invité ?
Alors la prochaine émission, donc comme on l'a un peu annoncé en début d'émission, ce sera Georges Kersaudy, donc traducteur de l'Union européenne, enfin ancien traducteur pour 50 langues.
Grand polyglotte. Sébastien.
Gis Dominique.